Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Aujourd'hui, à l'instar des émissions proposées par Matou sur notre équipage fantasme, c'est JP qui vient avec un tout nouveau thème dans une galaxie près de chez vous. Bonjour JP, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci Rémi.
Auditrice, auditeur, vous êtes bien sur les ondes de puissance maximale, je suis Rémi. Non, je déconne, en fait je suis un mec que j'ai attrapé dans la rue et qui fume 20 paquets de clopes par jour. Et vous écoutez Star Trek pour les nuls.
Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant.
Bon, allez, on va parler un peu de... Soyons sérieux, parlons d'une parodie. Dans une galaxie près de chez vous. Donc tu m'as dit, JP, j'aimerais bien que toi et d'autres personnes regardiez un peu dans une galaxie près de chez vous pour me dire ce que vous en pensez. Et toute l'équipe de Star Trek pour les nuls s'est jetée sur l'occasion pour dire non. Sauf moi. Donc j'ai regardé... Alors j'ai pas fini la deuxième saison, mais j'ai regardé presque la moitié.
Bon, c'est bon. Donc moi, t'as vu tous les personnages présents dans la série. Là.
Voilà.
Et en premier, je pense que ce serait bien d'introduire la série à ceux qui ne pourraient pas connaître cela. Donc... Est-ce que tu y vas ou j'y vais pour cela, mon cher?
Je veux bien que tu y ailles, parce que il y a des mots techniques comme push-push en cacane que je ne comprends pas forcément.
Bon, alors, on va commencer par le début. Donc, Dans une galaxie près de chez vous est une série, on se demande pas, qui est une série qui a été produite pour un canal pour enfants. La production a débuté en 1998 et ça s'est terminé en 2001. Donc, ça a été diffusé sur le canal Famille au Québec. Et par la suite, quand le canal Famille s'est transformé en VRAC Télé, donc la série s'est terminée sur VRAC Télé. Série qui a fait 4 saisons il y a 3 saisons de 13 épisodes et une de 26 épisodes où on suit les aventures du capitaine Charles Patnaud et de son vaillant équipage et parfois moins vaillant à bord du Romano Fafard. Le Romano Fafard qui est à la recherche d'une nouvelle planète pour déménager 6 milliards de Tata, comme le dit si bien le narrateur au début de chaque émission. Donc, la Terre se meurt par le fameux push-push en cacane, entre autres. Pas juste cela, mais entre autres. Donc, beaucoup d'expressions qui vont requérir un petit lexique pour nos amis français. On parle ici d'une série pour enfants, mais quand même un sous-thème très, très écologique.
Alors, il y a le sous-thème très écologique, mais... Moi, je trouve que, quand j'ai vu la première fois le logo Canal Family s'afficher à la fin, je me suis dit, putain, ils disent beaucoup de gros mots quand même sur Canal Family.
Canal Family, pas Family, parce que pardon, tu vois, au Québec, on parle français au Québec.
Pardon. Canal Family. Et du coup, j'ai été très étonné parce que y a beaucoup de gros mots.
C'est des gros mots qui sont modifiés pour ne plus être des gros mots. C'est comme. On dit tabarnouche au lieu de tabarnak, tu sais, des trucs de même. C'est juste assez modifié pour que ça passe.
D'accord, c'est un peu comme lorsque dans Batman et Robin dit nom d'un poisson marin au lieu de dire.
Exactement, donc c'est des expressions qui ont été modifiées pour plus un passé. Passer la censure, puis il faut dire honnêtement, je pense que ça rajoute une petite. Nappe de créativité là, par-dessus tout ça. C'est une série qui est devenue culte, je dirais quasiment dès le départ, et qui a conservé son culte encore. Même en novembre, présentement, là, il va y avoir une petite convention à Montréal pour célébrer les 20 ans de la série. Ah. Donc, j'espère pouvoir y assister.
Tu leur passeras le bonjour.
Ah ben c'est certain. Donc on parle d'une série qui est un peu qui est visiblement inspirée de Star Trek, on s'entend. Moins le budget. Parce que si vous pensez que la série originale n'avait pas de budget. Mais en même temps, c'est un peu. Moi, je compare ça à Red Dwarf un peu, si vous connaissez la série anglaise de ce nom-là. C'est le même genre de. C'est pas de budget, mais en même temps, c'est qu'il y a un look comique. On s'y fait très rapidement, je trouve.
Oui. Alors, on s'y fait très rapidement. Et tu dis qu'ils n'ont pas de budget, mais ils ont quand même des portes qui s'ouvrent automatiquement. Et puis non, mais les décors sont franchement pas dégueulasses. Le vaisseau est bien fait quand même. Il y a quatre décors, peut-être. Mais non, c'est. Je pense qu'ils ont vraiment pas à pâlir des décors. Les effets spéciaux, mais c'est fun. C'est le côté voilà. C'est quand même visuellement fait exprès. C'est ça qui est cool.
C'est une parodie qui a un message en dedans, mais en même temps, qui ces petits passages sérieux de temps en temps. Mm-hmm. C'est ça.
Il y a eu des films, non? Deux?
Oui, il y a eu deux films, oui.
Je ne sais plus si tu l'avais dit ou pas.
Oui.
Pardon.
Oui, il y a eu deux films par la suite. Je te peux pas. Je vais te redonner les. Dans une galaxie.
C'est pas bien grave. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup penser à tout ce qui était sitcom français, notamment à la série qu'on a diffusée pendant très longtemps sur Canal+, qui s'appelait H. Je sais pas si tu connais.
Non.
Alors, H, c'est une série des années fin 90, qui a fait émettre... Enfin, pas qui a fait émerger, mais qui a fait vraiment connaître du grand public... Jamel Debbouze, je ne sais pas si tu le connais non plus.
Non.
Et Eric et Ramzy. Alors, Jamel Debbouze, c'est un comique qui est extrêmement connu maintenant et qui a travaillé beaucoup, pas beaucoup, mais qui a travaillé notamment avec Luc Besson sur la fin de, enfin, plus récemment, quoi, après une quinzaine d'années de carrière, qui était issu du stand-up. Et Eric et Ramzy, en fait, c'était un duo comique qui faisait, pareil, des petits spectacles. Et aujourd'hui, en fait, alors c'est le moment de ne pas se planter de personne. Eric, c'est un petit chauve qui fait pas mal de films. Il joue dans beaucoup de films de Quentin Dupieux. Tu connais Quentin Dupieux ?
Non, pas du tout.
C'est un réalisateur. Ça va être une longue émission. Alors, Quentin Dupieux, c'est un réalisateur français qui fait des films très très particuliers, expérimentaux. Et il a deux acteurs assez fétiches qui sont Alain Chabat et Eric Judor, donc de Eric et Ramzy. Et Ramzy est un acteur qui est en pleine hype en ce moment, donc une vingtaine d'années après cette série. Même si ça fait 20 ans qu'ils sont tous les trois plus ou moins au. Enfin voilà, ça les a vraiment fait décoller. Et donc en fait, c'est une série qui se passe dans un hôpital et on a ces trois personnages principaux qui sont des brancardiers de l'hôpital. Donc il y a aussi le médecin et les deux infirmières, je crois. Enfin bref, et qui sont trois personnes qui arrivent des trucs mais incroyablement nuls. Et c'est le même genre d'humour, donc complètement absurde, et qui a eu une popularité énorme. Voilà, je sais plus quand ça a été diffusé, je crois. Fin 90 par là. Ouais. Et il y a aussi un petit côté, désolé, je finis vite. Il y a aussi un petit côté, les débuts de Kaamelott en France. Il y a une dizaine d'années, peut-être une quinzaine, est arrivée la série Kaamelott par Alexandre Astier. Qui, pareil, a eu un énorme succès sur M6, la sixième chaîne.
Donc, ça s'est rendu au Québec, ça.
Ah, voilà, ça a été tellement énorme que ça s'est rendu au Québec. Ben, du coup, je considère que tous les auditeurs connaissent. Voilà. Boum. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ce début, beaucoup d'humour, que des sketchs, machin. Et puis, petit à petit, on nous introduit vraiment une histoire. Sérieuse, mais qui se prend pas au sérieux.
Ouais.
Voilà.
Donc, justement, c'est un peu ça. Sauf que je trouve que dans une galaxie près de chez vous, il y a une continuité, mais une absence de continuité en même temps. C'est qu'il y a des choses qui je crois, semblent volontairement oubliées au niveau du scénario. Ça je peux peut-être le remarquer plus tard, là, mais je pense qu'il y a un certain laisser-aller de ce côté-là. Puis honnêtement, pour moi, personnellement, ça, tu sais, il y en a pour qui, justement, tu sais, quand on parle de Star Trek, puis la continuité, puis le canon, c'est très important. Il faut que tout se suive. Puis là-dedans, c'est comme, ah, oh, c'est pas grave. Puis.
Surtout quand tu vois les trois premières saisons, la série TOS, quoi.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu la même chose. Sauf que je pense que là-dedans, c'est surtout. Un jour, j'espère peut-être savoir là, si c'est volontaire ou pas, là, certains éléments qui sont oubliés, mais personnellement, après un certain temps, on vient qu'à s'en balancer. Mais peut-être faire un tour des personnages au départ, ce serait bien. Donc, on peut commencer par le personnage principal, qui est le capitaine Charles Patnaud, joué par le très fabuleux Guy Jodoin. En fait, premièrement, tous les acteurs qui sont dans cette série-là sont tous des acteurs, des professionnels de l'improvisation, c'est des champions de la Ligue nationale d'improvisation, c'est tous des acteurs qui sont aujourd'hui encore là très actifs et très très présents dans le paysage télévisuel québécois. Donc Guy Jodoin qui joue le rôle du capitaine droit, un peu, je dirais un mélange de capitaine Kirk et de capitaine Picard là.
Ouais.
J'irais un capitaine Picard plus jeune avec un petit peu plus avec la fougue du capitaine Kirk. Là, je pense que c'est un beau mélange.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des deux, totalement.
Avec les cheveux bien droits comme une tablette.
Oui, il y a pas mal de blagues sur sa coupe de cheveux. Eh bien, physiquement, ouais, il me rappelle un peu le colonel O'Neill de la série Stargate. Ouais. Bon, c'est rien, c'est bête. Hein,
mais... Mais sa chevelure, un des running gags, c'est que quand le vaisseau se fait secouer, lui ne bouge pas et tout le monde autour de lui bouge. Tu sais, c'est comme bon, par la gauche, par là, et lui, là, il reste droit comme un pic.
Des fois, il se regarde les ongles pendant que les autres sont en train de se casser la gueule dans tous les sens. Je trouve ça que c'est vraiment un running gag qui m'a fait pas mal rire à chaque fois.
Ben justement, ça, c'est quelque chose que j'apprécie assez. Il y a certains trucs qui reviennent, mais je les trouve toujours drôles. Ça ne devient pas ennuyant à la longue.
Je pense qu'on vient de passer au travers c'est bien utilisé. C'est pas comme s'il faisait un zoom sur son visage au moment où il y a des secousses. Je suis sûr que d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, mais peut-être que même les deux, trois premiers épisodes, je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est pas du lourd. De manière générale, j'ai l'impression que l'humour n'est pas c'est l'humour n'est pas lourd. Il y a des blagues un peu appuyées, mais quand c'est lourd, il y a un petit côté autodérision qui rattrape la chose. C'est bien.
Et on passe ensuite à son second en commande, Brad Spit. Joué par le magnifique Stéphane Kreit, qui est le scientifique. C'est comme un Monsieur Spock méchant et égocentrique et il a tous les vices sans les boulons.
Oh putain! D'où t'as sorti ça?
Ah,
je la ressortirai. Alors Brad Spitfire qui porte quand même le show, il relève encore d'un niveau. Tous sont quand même très bons dans ce qu'ils font, mais je trouve que cet acteur porte. Ben c'est de toute façon c'est le l'antagoniste principal. Du coup c'est par lui que tout se fait la plupart du temps. Oui, c'est ça, c'est un mélange de Spock et de Barclay que tu rends dans le Mirror Universe. c'est un gros connard. Et à qui tu aurais donné mon ego? Parce qu'il veut toujours. Il a ce petit côté, he's no good, il veut être capitaine à la place du capitaine. À la moindre occasion, il essaye de tuer le capitaine. Je trouve ça génial. Parce que plein de fois l'équipage pourrait l'attraper et le buter, tout simplement. Personne dirait rien, même le capitaine, il s'en foutrait, mais ils le font jamais. Alors que lui, à la moindre occasion, t'as le capitaine qui est en danger, il va mourir dans 5 secondes, mais il réagit qu'à la 4e seconde, quoi. C'est
Ben oui.
vraiment génial.
Ben c'est ça, c'est le méchant, mais qui au fond de lui, brin d'essence, là, ben faut vraiment aller le chercher très profond.
Mais il a une seconde personnalité dans un
Oui,
épisode. Stéphanie?
Linda.
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 Il est tellement gentil, tellement bon. C'est vrai.
Ben, faut le faire sortir à coups de mélamine.
À coup de tronche sur le bureau.
Oh oui, mais non, c'est ça. Donc, cet acteur-là est super sympathique dans la vraie vie. Tu sais, on regarde les derrière la scène, mais tu sais, tu le regardes à l'écran quand il est Brad, puis t'es pas capable de t'imaginer lui être comme gentil. Tu sais, fait que je pense qu'il fait super bien son travail de ce côté-là. Sinon, on passe à Valence Leclerc, donc la psychologue et copine du capitaine.
Allumeuse professionnelle du capitaine.
Et bon, on a eu droit à un changement de casting entre la première et la deuxième saison.
Oui.
Je ne me rappelle plus c'est qui jouait dans la première, mais je pense que la deuxième est la Valence Séminale, on s'entend. C'est joué par Sylvie Moreau.
J'ai pas noté, hein, désolé, tous les noms d'acteurs et d'actrices.
Ouais, y a pas de souci. Mais non, on s'entend vraiment. Valence prend tout son. Je pense qu'honnêtement, elle prend tout son plein potentiel avec la nouvelle actrice à partir de la deuxième saison. C'est là que.
Ouais. Eh bien, moi, j'ai eu du mal à me faire au recast. Je trouvais la première Valence bien en accord avec ce côté sexualisé de la personne qui est toujours en train de faire des gnagnantises, de se frotter au capitaine, de se mettre en avant physiquement. Ça ne rentre jamais, pardon, ça ne rentre jamais dans la vulgarité. Mais elle est très physique. Et la nouvelle actrice, enfin la nouvelle, l'actrice issue du recast, appuie moins ce côté sensuel et joue plus sur d'autres thématiques. Donc ça rend le personnage de Valence un peu plus complet, c'est-à-dire que c'est plus un objet sexuel, c'est plus un personnage à caractère sexuel pour le capitaine, c'est un véritable personnage complet. Mais sur le coup, c'est vrai que moi je m'étais habitué, j'aime pas trop les recasts de manière générale. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça surprend toujours. Il y a toujours cette difficulté, comme dans le deuxième Iron Man, personne ne reconnaît le type, tout le monde a mis une dizaine de minutes avant de se dire « Ah putain, mais c'est lui
!» Mais donc, c'est ça.
Après,
donc,
par contre, c'est vrai que la deuxième actrice a un jeu vraiment très complet. Après, je sais pas, il y a une histoire particulière, pourquoi avoir...
Non, ça n'a jamais sorti, je pense que peut-être que l'actrice était trop occupée, là.
Après, de toute façon, durant toute cette première saison, Enfin, le casting là. Alors, c'est pas que ça a tant bougé que ça au final, mais il y a plein d'épisodes où il manque la plupart des acteurs.
Ouais, ben c'est ça. Donc, je pense que pour accommoder les horaires des acteurs, je pense qu'il y avait la régénérescence. Donc, ils mettaient leur personnage littéralement au congélateur.
Je trouve ça génial. Mais sur le coup, en plus, quand ça a été utilisé la première fois, peut-être qu'on va parler du personnage d'ailleurs pour Flavien. Quand ça a été utilisé la première fois, je me suis dit, ah, il y a un concept super intéressant. Peut-être qu'il fonctionnait un peu comme on fait dans Mass Effect Andromeda. Ils partent dans Mass Effect Andromeda, les protagonistes partent dans une autre galaxie et en fait, il y a plein de personnes qui sont en cryogénisation, un peu façon Khan. Et de temps en temps, hop, ils réveillent une personne en disant, tiens, on a besoin de ses compétences, on le réveille. Et je m'étais dit, peut-être que voilà, ils vont faire ça de temps en temps. Donc là, ils ont réactivé Flavien, dont on va parler dans 2 minutes. Mais peut-être qu'après, voilà, ils vont réactiver des nouveaux acteurs par-ci par-là, des nouveaux personnages qui vont faire tourner. Et en fait, ils le font pas tant que ça.
Non, c'est ça. Il y a vraiment juste... En fait, Flavien, justement, ben, on peut embarquer sur lui. Donc, Flavien, qui est l'opérateur radar et joué par Claude Legault, qui est l'un des producteurs de la série.
Qui est excellent.
Oui. C'est vraiment... encore, c'est un des joyaux du télévisuel au Québec. On l'a vu dans de nombreuses séries. Il est énormément plein de talent. Il joue ce petit, comment dire, on dirait comme l'âme, un peu la conscience de l'équipage, je dirais. C'est un peu son rôle. Oui.
C'est le loyal bon de l'équipage. Ouais. C'est le seul qui a vraiment une comme tu dis, une conscience du début à la fin. Même s'il est tenté, c'est un peu le Luke Skywalker. Même s'il est tenté, ouais. il revient toujours. Mm-hmm. Puis il est chouette, il fait de la guitare.
Ben oui, c'est ça. Donc justement, c'est un... Et on apprend plus tard qu'il est à moitié extraterrestre aussi. Donc petit spoil.
Ah, spoil alert.
Ben non, donc orphelin, n'a jamais connu son père. Une histoire par rapport à ça qui se continue par la suite d'un film. C'est une des petites trames narratives là, qui suit quand même relativement bien au travers de la série. Et Flavien, donc, comme je dis, va toujours comme... À un moment donné, il y a un épisode où il retrouve un petit mime. Et Brad fait le méchant et renvoie l'œuf de mime sur une planète filante. Et là, t'as mon Flavien qui part en mode soldat, vengeance extrême.
Berserker.
Le loup n'a pas besoin de la lune qu'il est en chasse. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais ça sonne méchant. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est justement, c'est le côté, tu prends pas trop au sérieux de la série, j'aime bien. C'est comme, ils vont jouer dans les, ce qu'on appelle en anglais, dans les tropes, dans les clichés, mais en même temps, ils vont juste, c'est un cliché, regardez, là, c'est on le sait. Tu sais, ils s'amusent souvent avec ça. À un moment donné, ils font, t'as quelqu'un qui fait comme, where no man has gone before, puis tu regardes tout, on a déjà entendu ça quelque part, là, je pense.
Ouais.
Tu sais, fait qu'ils...
oui, mais ils en sortent deux d'affilée dans le même épisode, je crois, des petites références à Star Trek qu'ils assument totalement.
Ouais. Et accompagné, pour accompagner Flavien, ben, il y a Bob, donc Bob le pilote, qui lui, qu'on voit juste au début de la série, ça fait un peu bizarre de, tu sais, quand tu regardes, quand t'as déjà vu la série, puis tu reviens au début, puis là, tu vois Bob sans Flavien.
Ben, au début, c'est pas Bob et Flavien, c'est Bob et Falbo.
Oui,
c'est
ça.
Et après, ça devient Bob et Flavien.
Mm-hmm. Donc, Bob, qui est le meilleur ami d'enfance de Flavien, disons qu'il est bon pilote, mais il a besoin du cerveau de Flavien pour fonctionner à plein potentiel. C'est un peu la nature du duo. Mais sinon, Bob est... Encore là, il est pas méchant, mais tu sais, comment dire, il...
Ben, c'est une petite...
Lui va se laisser embarquer plus souvent dans des choses pas nécessairement...
Voilà, c'est... Il utilise plus ses sentiments que ses... Ouais. Que sa réflexion. J'ai une petite question, juste. Qu'est-ce que c'est qu'il mange? Des tobos?
Des pogos.
Des pogos tout
c'est,
le temps.
Des saucisses entourées de panures. En anglais, on appelle ça des corn dogs. C'est une... comment dire? c'est ça. C'est une saucisse à dog entourée de panures. Ça se vend dans les supermarchés.
Elle est sur une pique en bois. C'est...
Et voilà.
Et ils mangent ça à longueur de journée. Tout le temps. C'est rigolo. Ouais, parce qu'il y a plein de blagues sur les pogos. Parce que pour moi, ça, un pogo, en fait, c'est quand tu vas dans la fosse d'un concert de death metal et que tu tapes les gars. Voilà. Enfin bon, ça surprend toujours.
Ah non, ça oui. Et c'est vrai que l'estomac de Bob est fameux parce qu'il mange sans arrêt. Donc. Pas nécessairement une fine bouche, mais il va manger beaucoup. C'est un de ses traits de personnage qui l'assume aussi. Un moment donné, il y a une blague où il dit bon, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Puis il dit des abricots, des arachides. Ça. Ah, ça, c'est juste la lettre A, là. Dans la lettre B, j'ai mangé.
Je ne l'ai pas eu, celle-là. Un petit point notable, il est noir. Oui. C'est pas un problème. Non, je réfléchissais, je me souvenais plus de son nom. Ah, pétard.
Mais c'est vrai que c'est le personnage de minorité visible
oui,
aussi. Oui,
mais là aussi, ils en jouent. Il y a un moment où il dit « Je suis noir !» C'est une blague que tu retrouves, ben, il me semble qu'on la retrouve d'ailleurs dans H. C'est une blague qui me fait toujours rire parce que, voilà, c'est dédramatisé, c'est bon. Get over it. T'as vu, je parle en anglais. On s'en fiche, en fait, que c'est ce qui est intéressant dans son personnage, c'est son concept, c'est pas sa couleur, ni de l'acteur, ni du personnage.
Ouais.
Bref.
Bref, donc c'est Bob. On arrive donc à Falbo qui, lui, n'a survécu qu'à la première saison.
Mais oui, alors Falbo, c'était mon petit chouchou favori.
Oh.
Juste derrière lui venait Spitfire. Mm-hmm. Et Falbo, quand j'ai vu que au fur et à mesure de la saison 1, il apparaissait de moins en moins. Il disait, ouais, il est déjà allé sur la planète, on va le téléfaxer juste après. T'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Il va dégager celui-là, c'est sûr, il est jamais là.
Ouais.
Et moi, je l'aimais bien parce que c'était le. Je sais pas si c'est le personnage ou si c'est l'acteur qui veut ça, mais c'était vraiment l'acteur qui allait à fond dans le délire, qui partait dans un pétage de plomb du début à la fin, quoi. Et j'aimais beaucoup son personnage. Bref.
Ouais, faut dire, il était drôle. Tu sais, pour un officier de sécurité, il se prenait. T'étais capable de croire qu'il était fort, qu'il était bien, qu'il tirait bien, tout ça, qu'il faisait bien son travail, mais en même temps, il était pas comme, tu sais comment dire, il avait une personnalité propre, il faisait des blagues, il riait, puis il chantait autour du feu avec l'équipage, puis tout ça, puis tu sais, comme je dis, il avait une personnalité propre, un petit peu plus que Worf, là, si on compare à Star Trek Next Generation. Contrairement à Worf, fait comme, je veux juste tirer des torpilles, je peux-tu tirer des blagues, le capitaine fait non, mais...
Ça, c'est terrible. Alors, on en parle un petit peu avec Matou dans une émission, dans l'émission sur l'équipage fantasme, mais c'est terrible. C'est dans TNG, c'est ça, c'est, capitaine, dit Data, voici un nouveau vaisseau d'une race alien inconnue, d'une espèce alien inconnue. Et Worf, il faut lever les boucliers et tirer. Picard, mais ta gueule, on les connaît même pas. Dis-leur bonjour. Ça me fait tellement marrer à chaque épisode. Le pauvre, en plus, ça devait tellement saouler Michael Dorn de devoir dire ça. Il passe pour un con tout le temps. Bon, c'est pas son boulot, quoi.
mais donc, pour en revenir à l'émission. En tant que tel, donc, Falbo, donc, qui ne suit pas dans la deuxième saison, probablement encore là, dû à j'imagine, un horaire trop occupé, ce qui est un peu dommage, mais je pense qu'il y a une bonne sortie avec le personnage de Mirabella, donc, qui, elle, était la, en parenthèse, médecin de bord. Donc, Mirabella qui était en fait une
imposteur.
Une imposteur, une criminelle en fuite. Donc, il avait partagé le secret avec Valence qui, en échange de son silence, allait apprendre à devenir médecin en tant que tel. Il y avait quelques bonnes blagues par rapport à ça, par rapport à assommer quelqu'un qui avec une bonbonne de gaz aussi. La frère avec des bonbonnes de gaz.
Elle sort la bonbonne d'éther et elle lui met un coup derrière la nuque. Ça marche bien.
Donc, encore là, je pense que Falbo et Mirabella sont... Mirabella, surtout, je pense qu'elle ne manque pas tant que ça. Pense qu'il y avait déjà une...
Vas-y.
Donc, en fait, je pense qu'il y avait déjà une place pour un méchant tant que tel, puis c'était Brad. Je pense que il était capable de faire ça à lui tout seul. Donc, je dirais pas qu'il était trop, mais...
Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que Falbo ne manque pas tant que ça. Bon, moi, il m'a manqué parce que je l'aimais bien, quoi. Mais Mirabella manque. Je sais pas, une méchante, hein. On se rend compte qu'elle est imposteuse, mais elle n'est pas contre l'équipage, façon Brad, à côté. Moi, je l'aimais bien et je trouvais que justement, tu avais un potentiel d'histoire vachement intéressant dans le fait qu'elle soit une impostrice. Elle lit le manuel à chaque fois quand il faut faire un scanner.
Le scanner.
Voilà. Je trouvais que c'était intéressant. Et surtout, l'épisode. Alors, c'est un personnage qui a droit à une fin. Pas, ouais. Contrairement à Falbo, on explique comment et pourquoi elle s'en va. Alors que Falbo, c'est juste en aller. Tu sais pas pourquoi. Il a disparu.
Bah, il est parti à la recherche de Mirabelle. Là.
Bah oui, du coup, ils l'ont considéré comme perdu, quoi. C'est horrible. C'est horrible comme mort. Ils auraient pu, je sais pas. Bref, c'est vrai qu'ils auraient pu jouer là-dessus, faire un épisode mort de Falbo où il tombe amoureux de Mirabella, il s'en va avec elle, quoi. Enfin bref, le pauvre. Et j'étais un petit peu triste parce que Mirabella était un personnage que j'aimais bien. Voilà, elle avait pas. Et puis elle tranchait bien. Elle permettait d'équilibrer le côté sensuel de Valence. En ne parlant absolument pas, même s'il y avait un début d'intrigue amoureuse avec Bob. Décidément, ce soir, Bob, je vais pas le retenir. Hein. Pourtant, c'est le nom le plus facile. Tiens, je me note Bob, B-O-B. Voilà, comme ça, je l'oublierai pas. Et bref, j'aimais bien ce personnage. Donc vraiment, autant bon, je regrettais la disparition de Falbo personnellement, autant je trouve que c'est un manque pour l'histoire de plus avoir Mirabella.
Ouais. Et bon, et ça c'est pas mal tout l'équipage de la première saison. Et là, la deuxième saison, pour contrebalancer le départ de Mirabella et de Falbo, arrive au quatrième épisode de la seconde saison. Petrolia Stanislavski.
Oui, je.
Et Serge Landroïde. joué par respectivement Mélanie Ménard et le fabuleux Réal Bossé. J'adore Réal. Il me fait rire à tous les coups. Je pense que ces deux personnages-là, Petrolec va prendre le rôle un peu d'ingénieur et plus tard va s'essayer comme médecin aux grandes dames de l'équipage. En fait, son rôle étant patente à gosseuse de patente chouche, de patente à gosser.
Alors là, ça. Pour tous les auditeurs français et belges et suisses, je suis désolé, mais je vais te demander une traduction.
une patente à gosse, c'est un gadget, c'est un truc, une bébelle, quelque chose que quand on parle en québécois, on dit j'ai gossé ça en bois, c'est quelque chose que t'as fait toi-même ou que t'as ramanché.
D'accord.
Avec du duct tape ou avec deux, trois vis puis un boulon.
De façon MacGyver, ok.
C'est ça, exactement. Donc, quand on parle de gosser quelque chose, donc imagine-toi MacGyver qui gosse une bombe à partir de trois trombones et une gomme à effacer.
En français métropolitain supérieur, évidemment, on aurait dit un bricoleur, quoi, tout simplement.
Oh! Oh, je suis sûr que vous avez un mot en anglais francisé pour...
Alors ça, franchement, c'est un débat, mais infini avec tous les Canadiens que je rencontre. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas s'il en est des Belges et des Suisses et des Africains francophones, mais en France, on considère que les Canadiens utilisent un mot sur deux en anglais. Et au Canada, ils considèrent qu'en France, on utilise un mot sur deux en anglais. Et les deux considèrent que c'est faux.
Je vais t'expliquer la différence. C'est que tu vois, surtout à Montréal, on va dire une phrase sur deux en français. Sauf que quand on parle en anglais, quand on dit notre phrase en anglais, elle va être en anglais. On va pas faire semblant que le mot est en français. Et voilà notre supériorité bilingue.
Ouais. Non, mais après, c'est surtout que c'est... En fait, alors, un petit peu d'histoire. Ça remonte à la guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc. Bref, on n'aime pas les Anglais.
Mais du coup, nous, quand on n'a pas le choix anglais, de les aimer.
Oui, c'est vrai que quand on doit parler anglais, en fait, ça dépend de qui. Parce que moi, j'essaye quand même de prendre cet accent, enfin, de bien prononcer les mots en anglais. Mais quand je fais ça, Quand je le fais derrière le micro de Star Trek pour les nudes diffusé sur puissance maximale tous les mercredis à 12h30, quand je fais ça derrière un micro, personne ne me dit rien, personne ne m'a jamais rien dit dans les commentaires. Mais quand je le fais dans la vie réelle, genre je suis commerçant et quand j'ai des clients anglais, quand je me tourne et je vois mes collègues, elles pouffent de rire parce que j'ai un bon accent anglais ou parce que j'essaye de m'efforcer d'avoir une prononciation correcte. Donc, en fait, tu vois, il y a ce côté un peu français. On n'aime pas les étrangers. Faut pas l'oublier que la France, c'est vraiment.
Alors, est-ce que tu peux me dire Spitfire Corporation?
Spitfire Corporation. Lancez la mission Slingshot.
Slingshot.
Alors, avec ma voix, je sais pas ce que ça donne comme accent, mais non, même si je le fais mal, j'essaye de le faire. Mm-hmm. Je pense que les Canadiens les francophones canadiens pourront pas m'en vouloir.
Bref. Ouais, non, c'est sûr.
Par contre, j'aimerais. Bref, excusez-moi. Je lance un appel à tous nos auditeurs et auditrices francophones de Belgique, de Suisse et d'Afrique. Contactez-nous. Je veux un maximum d'accent et de façon de parler francophone. J'ai dit belge, suisse et africain, mais les luxembourgeois aussi d'ailleurs, j'y pense, excusez-moi. Et parce que je sais qu'on a des belges et des suisses, ça j'en suis sûr, j'ai vu sur Facebook.
Ouais. Non, mais pour en revenir, donc, dans une galaxie près de chez vous, donc, Petrolia et Serge, qui je crois apporte justement une dose supplémentaire d'humour. Je pense qu'on remplace deux personnages qui avaient j'aurais un potentiel dramatique par un personnage plus humoristique avec qui va un peu remplacer le rôle de Mirabella dans le thème romantique, dans le sens que Bob va tomber amoureux d'elle, mais elle va voir Flavien. Puis après ça, on remplace Falbo par un androïde qui va connaître plusieurs versions subséquentes. Donc, je vous dis, qu'est-ce que toi t'as pensé de Petrolia quand elle est arrivée là, et de son potentiel là, en tant que tel?
Petrolia, il n'y a pas de souci. Non, j'ai eu quelques difficultés avec l'androïde. Mm-hmm. C'est tout. Je sais qu'elle. Okay. Non, si tu veux. Mais il a un humour très visuel, il fait beaucoup de grimaces, il fait des imitations, machin. C'est très rigolo, mais ça m'a pas particulièrement. Ça m'a touché sans faire bouger l'autre.
Ça se calme. Il y a une version de Serge plus stoïque dans l'avenir de la série, tu verras plus tard. Mm-hmm. Mais c'est sûr que oui, au départ, il est très.
Le personnage est bon, hein, c'est pas le souci. Mais il m'a pas. Ouais. Autant Petrolia, ouais, avait un bon potentiel. Alors, on a je viens de recevoir un message, on a un auditeur externe qui a coupé son micro. Renaud nous a rejoint. Bonjour Renaud, on t'aime. Et alors, il me dit que mon accent est particulièrement bon. Tu vois, quand je t'ai dit ça. Voilà. Excuse-moi. Et donc, Petrolia, enfin, là où j'en suis à la saison 2, à la moitié de la saison 2, Petrolia a un gros potentiel, je trouve. Mm-hmm. J'espère qu'ils vont pas trop appuyer le côté triangle amoureux avec Bob et
non,
Flavien.
Ça se calme avec
parce que c'est pas intéressant, en fait. Voilà. Et Serge est cool, mais il est. Ouais. C'est pas le genre d'humour qui me parle. Voilà.
Okay. Donc, ça fait le tour des personnages en tant que tel. Donc, la série. Comment dire la série a suivi son cours 4 saisons. Et ensuite, on a eu le droit à 2 longs métrages en 2004 et en 2008. Et il y a toujours des rumeurs d'un troisième film éventuellement un jour. Donc, je veux savoir, toi, quelles expressions québécoises t'ont marqué dans tout ça? Là,
alors,
parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'expressions typiquement québécoises et ils ne se gênent pas d'en beurrer épais.
Oh, punaise, c'est raciste de rire comme ça. C'est tellement moche, mais j'aime bien. Non, j'ai pas de. Il y avait le push-push en cacane. Que j'avais compris, je t'ai envoyé un message. Qu'est-ce que j'avais compris au début? touche-touche la tatane.
Du putsch-putsch.
Du putsch-putsch. Et ouais. En tatane. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et donc, en fait, push-push en cacane, c'est un déodorant, quoi.
C'est, ouais, c'est
ou,
ça. C'est,
ou
c'est...
une bombe
de
spray.
On a de l'aérosol.
Voilà, un aérosol. je réfléchis vite fait. Il n'y a rien. Mais après, je ne suis pas la bonne personne pour ça, parce que moi, ça me... Enfin, ça me dérange pas trop. Ça me fait rire de temps en temps, vos expressions, parce qu'elles sont assez imagées. Mais... Mm-hmm.
Mais il n'y a rien qui t'a comme fait comme qu'est-ce que c'est ça que je comprends pas.
Ouais, je sais plus. Je t'ai envoyé des messages, non, mais je me souviens plus.
Mais il y a quelques blagues, on s'entend, qui sont purement québécoises, qui est juste les Québécois. Comme un moment donné, ils disent, je sais pas que t'es encore rendu là, mais un moment donné, ils disent embrassez-vous sous le Guy, parce que c'est Noël. Puis là, t'as une photo du hockeyeur Guy Lafleur qui descend, puis il s'embrasse sous le Guy, tu sais. Ça, c'est... Mais en même temps, tu vois, tu peux le deviner facilement que
mais
bon,
tu
il
vois que le type,
tu
dis
le
nom, tu dis qu'il doit s'appeler Guy.
C'est ça, exactement. Ouais.
Après, non, il y a eu quelques trucs, des moments sur la prononciation, parce que il y a un accent qui est différent du mien, donc la prononciation m'a l'air trop rapide à certains moments, donc il y a des petits passages que je repasse. Mais non, en soi, je pense qu'en plus, vraiment, c'est compréhensible. Si on n'était pas aussi fermé aux manières de parler différentes des nôtres, je pense que ça pourrait même être diffusé
parce
en France.
Que tu vois, c'est ça, parce que tu vois, ici, nous, au Québec, on n'a pas de problème à utiliser les trucs français, là.
Non, mais ouais, mais ça, c'est
on
une
en
honte.
A plein notre télé,
c'est une honte française. Nous, en France, on diffuse rien belge, rien suisse et rien de canadien. C'est une honte monumentale. Parce que, ben, comme je disais tout à l'heure, je le disais avec beaucoup d'humour, le français métropolitain supérieur. Mais non, en fait, je pense qu'il y a ce fond de réalité, de vérité. Voilà. Et au final, c'est méchant et bête et c'est dommage. Voilà. Lydique, il ne faut pas oublier une infinité de diversité dans une infinité de combinaisons.
Une combinaison, et voilà. Donc, toi, est-ce que tu vas continuer la série?
Oui. Oui. En fait, de temps en temps... Alors, je fais de temps en temps des petites insomnies, il faut le savoir. et ça m'a accompagné dans mes insomnies. Je regarde ça. Je trouve ça très rigolo. Et puis, quand je veux m'endormir, je me mets un petit épisode de la série animée Star Trek. Bref. Non, mais... Je regarde... Là, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas regardé, mais franchement, il n'y a pas de souci, je les regarde. En plus, bon, la série est disponible dans son intégralité sur YouTube, très facilement.
Oui, faut dire que les droits, je pense, se sont perdus en 2-3 compagnies. Puis
voilà, il n'y a pas eu de diffusion DVD.
Il y a des coffrets DVD qui ont été sortis il y a très très longtemps, mais sont tous hors production. Fait que, personnellement, tant qu'il n'y a pas de moyen légal pour consommer la série, même s'il n'est juste disponible qu'ici au Québec.
Il faudrait qu'ils en parlent à Netflix.
personnellement, tant et sous longtemps qu'il n'y aura pas de nouvelle façon légale de se procurer la série, j'ai aucun problème à dire qu'elle est disponible sur YouTube. Donc, allez-y,
alors,
cherchez...
Attends, excuse-moi. Tu me parles de mon accent et tu dis YouTube. C'est YouTube.
Oui.
OK.
YouTube, comme ça qu'on dit en anglais.
YouTube.
Ton alors, tube.
Alors, attends. Je vais répéter la phrase d'un magnifique YouTuber. Hello, guys, and welcome to Trek on the Tube. Tu vois, on dit tube. Tube. T'as reconnu?
Ben oui. C'est Sean. Mais oui. Il faut dire que lui...
Il est néo-zélandais, c'est pas un vrai américain, c'est ça.
Néo-zélandais, franco-néo-zélandais québécois. Alors.
Et donc, il sait pas parler anglais, quoi.
Ben oui, il parle très bien anglais. En
fait. Aïe.
Mais non, c'est ça. Donc,
Renaud nous a quittés. Avant de partir, Renaud m'a envoyé un message. Il m'a dit « Attends, je n'ai pas dit si c'était ironique ou non, la phrase sur ton accent. » Voilà.
Oh, désolé, c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Mais non, c'est ça.
Alors, il y a une petite partie sur quoi je voudrais rebondir dans le début de la saison 2 qui m'a un petit peu surpris et qui m'a poussé à me renseigner un petit peu sur l'histoire du Québec. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas normalement une série, tu la regardes pour le fun, quoi.
Oh, oui.
Et alors déjà, il y a une petite blague un peu gimmick. À chaque fois qu'il prononce le mot Québec, tout le monde regarde vers le ciel de manière patriotique. Je trouvais ça sympa. Et il parle de la fameuse tempête de 98 au Québec.
Oui, c'est
au Canada.
Oui,
c'est 98.
Bah, surtout, surtout au Québec, là, c'était, je pense, c'était tempête de seconde verglas.
Eh bien, alors.
198, oui, c'est ça. Non, mais donc, c'était une. C'était la plus grande, le plus grand. On appelait ça en français, là, ici, la crise du verglas.
Oui. Et il y a des photos incroyables sur Internet, auditrices, auditeurs. Je vous invite à regarder ça. Mm-hmm. Tapez tempête 98 Québec. Et vous allez voir des poteaux électriques qui ont fondu sous le poids du verglas.
Ouais.
Ils se sont tous distordus. Et en sachant que j'ai vu ces poteaux électriques, c'est pas des poteaux électriques français. C'est-à-dire que vous prenez un poteau électrique français et vous le multipliez par 3 ou 4 en taille. Mm-hmm. Et c'est monstrueux. Quand on voit le truc, on se dit « Waouh !»
Donc, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux. Je n'ai pas été trop affecté là, dans ma jeunesse par ça parce qu'on était en dehors du triangle... Il y a presque quasiment le triangle des Bermudes, là. Mais oui, ça a affecté, écoute, des centaines de milliers de gens pendant, je pense quasiment que même plusieurs semaines, là, il y a des gens qui n'ont pas eu d'électricité. Là.
Oui. Et alors, je n'ai pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais je pense qu'en fait, c'est la même tempête qui a touché la France le 1er janvier 1998, en fait. Mm-hmm. Et il faut savoir que particulièrement le sud-ouest de la France a été totalement dévasté. Et je me souviens très bien de ce jour de l'an 98, parce qu'on était chez des amis, on voyait les arbres s'envoler, s'arracher dans tous les sens. Alors chez nous, il n'a pas neigé, il a pas, voilà, il a beaucoup plu, il y a eu des montées des eaux. Et une quantité d'arbres, les dégâts, je me souviens encore de reportages dans les années 2000 qui disaient « on n'a pas fini de réparer les dégâts » qu'a causé cette fameuse tempête de 98 qui est la plus grande tempête à avoir touché la France. Donc la francophonie dans son entièreté a été touchée par cette tempête 98.
Ah ouais.
De quoi nous unifier les amis.
Et ensuite voilà. Aller gagner la Coupe du Monde.
6 mois plus tard. Ils se sont entraînés sous la tempête face au vent,
c'est
le ballon.
Ça.
Ah, je déteste ben
oui,
le
donc,
foot.
Donc au point où ce que Hydro-Québec, la compagnie, on a nationalisé notre hydroélectricité là aux années 70, c'est le gratte-ciel d'Hydro-Québec à Montréal a fermé son insigne, son logo tant que tout le monde n'avait pas été rebranché, il n'avait pas rallumé le logo d'Hydro-Québec là. Ça a été et même le président de Hydro-Québec avait est devenu un peu un meme, comme on dit si bien en anglais, parce qu'il portait toujours une espèce de gros col roulé. Hydro-Québec, c'est devenu un point marquant à l'époque. Donc, c'est des petites choses que je me souviens de cette époque-là. J'étais quand même jeune, j'étais au début, quoi, j'avais 13-14 ans à cette époque-là, donc aïe aïe aïe.
J'avais 7 ans et demi.
Et ben un autre truc intéressant par rapport à ça, je t'en avais glissé un mot. On remarque aussi à la saison, au début de la saison 2, ils mentionnent beaucoup le Canada. Tu sais, au début, ils ont remplacé le monologue au début, le début de chaque émission. Ils font bien attention de mentionner que le Canada a développé. Tu sais, le monde s'est tourné vers le Canada, la première puissance mondiale. Tu sais, puis ils ont tout un gros drapeau du Canada sur le bras, puis. T'sais, on sait que c'est un produit canadien. T'sais,
j'ai pas vu du tout. Désolé.
Tu portes un petit peu plus attention. C'est simplement, ils ont fait ce changement d'heure dans la saison 2 simplement pour des crédits d'impôt au niveau du fédéral. Parce qu'il fallait que le contenu soit visiblement canadien.
D'accord.
Et ils ont fait.
Vocalement,
okay,
ça suffit pas.
C'est ça. Donc, ils en ont encore là, comme on dit si bien, beurré. Épais, Je pense que ça rajoute. Personnellement, je trouve que moi, ça rajoute un petit peu de subversivité à toute la chose. Là.
C'est une bonne manière de faire. Hein. Mais non, j'ai pas remarqué.
Mais donc, tu y reportais attention, tu comparais le monologue au début, puis du premier, puis la deuxième saison. Ils font, tu sais, t'es sûrement le cas, justement, l'insigne sur l'épaule de chaque. Il y a toujours le drapeau du Canada, puis maintenant, il parle de la guerre de la Chine, et c'est contre les gens du canal La Chine, et non pas, en tout cas, des petites blagues comme ça, mais ça...
Alors là, celle-là, je l'ai pas compris. Désolé.
Ouais, non, c'est vrai, parce que dans le coin de Laval, il y a le canal La Chine. Fait qu'à un moment donné, le capitaine Patnaud, il parle de la guerre contre la Chine et il parle du canal La Chine à Laval.
D'accord. Mais voilà, c'est le genre de blague que j'aurais mal compris, quoi. Non, je m'en souviens pas, par contre.
Et ah, c'est vrai, il y a un truc que je voulais savoir, que ton avis. Le vaisseau en tant que tel. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais ça, c'est une grosse blague qui rappelle dans les années 80, on avait les nuls qui avaient fait une parodie de Star Trek qui s'appelait Stubol. Non, je sais plus le nom. Bref, objectif nul. Et le vaisseau, c'était pareil, c'était une espèce de vieille boîte en métal qui allait dans l'espace. Et ça m'a rappelé ça. Et je trouve ça dommage. Parce que... Après, bon, c'est Romano Fafard. Donc, c'est le concept c'est des Romano dans l'espace qui partent avec ce qu'ils ont. Mais je trouve ça dommage, tu vois. Parce que surtout que l'intérieur fait pas du tout pourri. Enfin, ça fait... Ouais. Futur usé, mais ça fait pas pourri. Et le vaisseau en soi, c'est boîtes de conserve fixées les unes contre les autres, avec une cabine d'avion sur le devant. Ouais. Et je trouve ça dommage. C'est un peu nul. Désolé.
Ouais. Ben, y a pas de soucis.
Par contre, le générique est très bon. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ça, c'est génial. Ah, alors, il y a une coupure. Et me revoilà. Désolé, très chères auditrices, très chers auditeurs, vous le savez, une émission de Star Trek pour les nuls n'est pas une émission de Star Trek pour les nuls sans problème technique. Excuse-moi, JP, qu'est-ce que tu disais?
Non, c'est ça, je disais, pas de souci pour le... Sinon, au niveau technologie du spatiale, on peut peut-être mentionner le téléfax. une relique qui fonctionne... comme le scénario veut qu'il fonctionne.
Oui, c'est un peu comme
le téléporteur, mais voilà. J'aime la façon qu'il arrive. Il arrive comme allongé sur le long, puis il roule, puis ça fait... il arrive en action, tu sais, sur la scène, tu sais.
Je trouve ça chouette, ouais. Le côté physiquement, je rentre dans la pièce, hop, c'est sympa, plutôt que j'apparais dans la pièce. Enfin, les deux sont sympas, mais je trouve que la différence est sympa à noter. Après, comme tu dis, c'est totalement... On fait ce qu'on veut. Des fois, Brad arrive à téléporter le capitaine sans ses vêtements, à téléfaxer le capitaine sans ses vêtements, et d'autres fois, non, il arrive avec des branchages autour de lui et ce genre de truc. C'est fun.
C'est ça. Donc, sinon, il y a aussi les armes qui sont faites avec des bouts de trompette et ça va un peu dans... On pige dans une boîte et on voit ce qu'on peut trouver pour...
C'est malin, c'est très malin. Et les grenades sont des canettes de boîtes de conserve.
Oui, bon, ça le fait comme je trouve très bien quand même.
Oui, ça me fait penser aux grenades qu'utilisaient les Allemands pendant la Seconde Guerre.
Oui, ouais, en effet.
Oui, j'ai joué à Call of Duty numéro 2 et 1 sur PlayStation 1, désolé.
Comme on dit en si bon français, j'ai joué à Call of.
À Call of.
Call of. Oh putain! Mais non, c'est ça. Donc, des choix justement esthétiques qui je pense, qui suivent Il n'y a rien qui, dans les accessoires du vaisseau qui clash avec le restant. Là.
Non.
Ça reste toujours très en harmonie. Avec
à la limite, vraiment à la limite, le fait que Bob... Ah, je me souviens de son nom. Le fait que Bob utilise un volant pour piloter. À la limite, ouais. Vraiment, ça fait un peu chelou parce que...
sa boîte de transmission manuelle.
Comment il fait pour aller en haut et en bas? Ben, il peut pas, il peut aller qu'à droite et à gauche, quoi. Ben,
ouais, c'est avec les pédales.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je cherche pas. Mais non, sinon, ouais, il n'y a pas de problème. Même le scanner est cool.
Scanner, mais pas le scanner, le scanner.
Scanner.
Il faut, tu sais, quand ils disent des mots en anglais, ils vont mettre une grosse emphase sur le mot. Le mot en anglais, tu sais.
Ouais,
Spitfire comme... Corporation ou le Scanner, tu sais.
Le Slingshot.
Slingshot. Ou quand ils parlent de la mission. Là, ouais. On regarde tous vers le haut, par là. La mission.
Capitaine,
venez.
Je trouve ça très cool. Très, très cool.
Donc, en tout cas, je pense que ça fait un petit peu le tour, là. J'aurais aimé un message à tout le monde. J'aurais aimé... avoir un petit peu plus d'opinion française, mais je vais me faire de celle de ben Rémi.
On peut... on est toujours à temps de motiver... Je vais essayer de motiver mes compatriotes, mes très chers compatriotes, ouais. d'écouter... De regarder, pardon, cette série.
Ben déjà qu'on force des noobs à regarder Star Trek, là. Je sais pas si de leur demander de regarder une autre série.
Non, mais je pense que peut-être Matou pourrait être touché, pourquoi pas. Il faudrait que j'arrive à le motiver.
C'est ça. Donc, c'est toi. Donc, personnellement, c'est,
cas,
ce serait, si vous pensez vouloir visiter ou habiter au Québec, je pense que c'est une série qui va vous apprendre ou... vous montrer un peu comment qu'on parle dans la vie de tous les jours quand même. Je pense que le vocabulaire utilisé est quand même très représentatif là, de comment qu'on parle ici. Toujours un petit peu plus exagéré, mais le vocabulaire est quand même... ça vous fait à l'oreille d'un bon Québécois qui parle.
Mais après, moi, de toute façon, clairement, je conseille à tous les fans d'humour absurde.
Ouais.
De ne pas hésiter à se lancer. Les deux premiers épisodes, il faut prendre un rythme quand on n'est pas habitué à l'acting canadien.
Ouais.
Mais c'est tout.
Si vous avez aimé, y a une série québécoise qui a passé les frontières, c'est L'amour. Le cœur a ses raisons. toi, tu ne connais pas.
Non, désolé.
Je sais que ça a été très populaire en France. Donc, si vous avez aimé Le cœur a ses raisons, vous allez aimer Dans une galaxie près de chez vous.
Peut-être que le titre a été retraduit en français.
Peut-être.
Probablement par Earth Reasons. Parce que c'est le genre de truc qu'on fait en France. Si Dans une galaxie près de chez vous arrive en France, on va l'appeler Galaxy Conquest ou un truc comme ça. Un truc qui n'a rien à voir. Et en anglais, parce que c'est toujours plus stylé.
Oh oui.
je pense notamment à The Hangover, qui s'appelle très justement La gueule de bois en québécois, ouais. Mais en France, ça s'appelle Very Bad Trip.
Ouais, c'est voilà.
Le type. Enfin bref, en plus, c'est un spoil.
Il y avait un humoriste québécois qui avait fait une blague sur Facebook et il disait « Je vais prendre... tu sais, il était au restaurant, puis je vais prendre ma commande pour emporter. » Il a fait « Ah, je comprends pas! » Mais pour emporter, je vais prendre ma con. Oh, en takeaway!
Non, on n'est pas à ce point. Non.
Bon. Je crois que c'est quand même un bon moment pour mettre fin.
Alors, c'est un bon moment pour mettre fin, mais on va quand même terminer sur une prise de position politique, toi et moi. Nous sommes alliés dans un grand combat qui a eu lieu cet été en France. Ça s'est un petit peu tassé, mais peut-être qu'on va le relancer d'ailleurs, toi et moi.
Mm-hmm.
Sachez, très chères auditrices et auditeurs francophones, que oui, les Canadiens, comme tout bon francophone, disent chocolatine.
Ah! Oui, c'est chocolatine, en effet.
Voilà.
c'est le bon mot. Et si vous n'utilisez pas ce terme chocolatine, vous avez tort et vous ne ferez qu'argumenter le fait que vous avez tort.
Et oui, et même si on ne dit pas une raisintine et qu'on dit un pain au raisin, on dit une chocolatine et pas un pain au chocolat. Voilà.
Et voilà.
Je pense que sur ces très bons mots, complètement dérivés du thème qui était dans une galaxie près de chez vous, que nous vous conseillons tous les deux, je pense qu'on peut enchaîner avec la terminaison de l'émission. Je viens de faire un néologisme. Avec la fin de l'émission, ça sera plus simple.
Ouais, mon Dieu, c'est tellement n'importe quoi.
Oui, des fois. Bon.
Ben oui, avec Rémi qui a sa voix cassée, moi qui n'ai pas capable de me retenir de rien. Tout va bien, ça va bien, pas de problème.
On est bien.
Heureusement.
Très chères toutes, très chers tous, merci de nous avoir écoutés. On vous conseille, allez écouter, allez regarder. Ah, décidément, allez regarder dans une galaxie près de chez vous. Ça vaut le détour et c'est chouette. Voilà.
Oui, en effet. C'est concis, c'est bien pensé, c'est bien dit.
Oui.
Avec une belle petite voix rauque avec trois Marlboro.
Ah, ben tiens, voilà. Garou. Tiens, JP, pour terminer, une petite blague. C'est Garou, le chanteur, donc, qui va à l'hôpital parce que sa femme s'est cassé la jambe. Et il arrive sur le parking et il dit « Ouais, je me garou. »
Oh. Ouch. Allez, voilà. Mets fin au supplice. S'il vous plaît, mets fin au supplice.
Allez, vivez longuement, prospèrement. N'achetez pas trop de push-push en cacane. C'est dangereux, et c'est mauvais pour la planète.
Il faut mettre la crème solaire 72 avant de sortir dehors, n'oubliez pas.
Voilà, mais ne vous lavez pas avec parce que ça pollue l'eau. Donc, essuyez-vous d'abord avec une serviette, puis allez vous baigner.
Et voilà.
Voilà.
Et chose que j'ai appris à Las Vegas, pour la crème solaire, appliquer 15 minutes avant de sortir dehors. C'est une chose qu'on apprend, comme on dit, à la dure.
Ça sent le bout du nez rougit. Allez.
Aïe, aïe, aïe.
Allez, bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Star Trek pour les nuls.